Le masque et la plume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la scène du théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité estivale du cinéma. Avec les coquillages et crustacés de la critique Eva Bétan de France Inter, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série qui reprendra fin août sur notre chaîne.
Dans trois semaines.
Jean-Marc Lalanne qui est venu en maillot de bain des Inrocuptibles.
Ça lui va très bien.
Il faut dire qu'il a fait un numéro sur le sexe qui marche du feu de Dieu.
Exactement.
Comme tous les ans. Sur la sexualité. Et Eric Neuhoff qui est venu en costume cravate du Figaro. On parle aujourd'hui des films de Hong Sang-soo, Casey Affleck, Michael Angelo Covino, Rodrigo Sorogoyen, Hugo Benamozig et David Caviglioli, mais aussi de deux rééditions, Les Sublimes Fleurs de Shanghai et l'iconique Flash Gordon. Dans le courrier de la semaine, à propos du film allemand Béni, Mireille Cessé est en colère. Je vous encourage à partager un week-end avec ces enfants qui crient parce qu'ils souffrent et ne savent pas dire ce qu'ils ressentent. Non, ces enfants ne sont pas capricieux, comme vous l'avez dit. Denis Mathieu, très choqué d'entendre Eric Neuhoff dire à propos du film « Fille de joie » que pute et technicienne de surface, c'était la même chose. Ma mère, dit Denis Mathieu, qui vient de mourir du Covid, a été femme de ménage pendant 40 ans et je la remercie de l'éducation qu'elle m'a transmise. La preuve, j'écoute Le Masque et la Plume tous les dimanches. Eric ?
Je sais plus, je me souvenais pas d'avoir dit ça, mais c'est sûrement maladroit, mais je voulais sans doute dire que c'était deux métiers physiques et que dans les deux cas, ce sont des briseuses de ménage.
Gisèle Daniel a trouvé Le Masque beaucoup trop indulgent avec la rumeur de William Wyler, très courageux à l'époque de dénoncer, c'est vrai, l'homophobie. Le film devient dans le dernier quart d'heure veule et dégueulasse. Un personnage avoue à demi-mot son homosexualité. Wyler le tue, le personnage est lesbien, c'est mal, il doit payer et il paye. Pendant que celui qui ne l'est pas s'en va tranquillement vers une vie paisible qu'il mérite, lui, puisqu'il n'est pas homosexuel. Quel gâchis au vu des 90 premières minutes. Rien à ajouter là-dessus.
C'est pas Wyler d'abord, c'est l'auteur de la pièce dont la rumeur était adaptée. Et malheureusement, oui, un bon homosexuel ou une bonne homosexuelle à l'époque était malheureusement un homosexuel ou une homosexuelle mort.
Jean-Luc Clairet revient, sans doute pour Jean-Marc, sur India Song de Marguerite Duras, dont on avait parlé le 5 avril et qui m'avait valu un courrier très très partagé. Jean-Luc Clairet nous dit « J'ai passé tout l'été 75 à rire du film. Quelques semaines après, le soir de mon arrivée en Algérie, j'ai cru bon de rire une fois encore d'India Song chez l'hôtesse qui hébergea le jeune coopérant que j'étais, mais elle sut me parler de ce film. Elle y voyait un film sur la mort. Et ce soir-là, India Song est devenu jusqu'à aujourd'hui très cher à mon cœur. »
Ben voilà, bravo monsieur.
Enfin, Patrice Piche de Toulouse a aimé les souvenirs de Woody Allen, soit dit en passant chez Stock, dont Le Masque avait parlé le 31 mai. Première émotion, j'ai repensé, nous dit Patrice Piche, et très fort à Daniel Eman, qui adorait les films de Woody Allen et qui fut une critique généreuse. Ensuite, on y retrouve le Woody qu'on aime, plein d'autodérision, intelligent, mais pas du tout intellectuel. Et merci, ajoute enfin cet auditeur, de votre permanence qui nous montre que les choses importantes, comme votre émission, traversent imperturbablement les événements les plus graves. Allez, on commence avec Light of My Life, le deuxième film comme réalisateur de l'acteur Casey Affleck, qui sortira mercredi prochain, attention, hein, c'est le 12 août, donc n'y allez pas ce soir, ni cet après-midi, dans un monde post apocalyptique, la population féminine a été éradiquée par une pandémie qui n'est pas le coronavirus. Un père qu'évidemment Casey Affleck interprète tente de sauver sa fille unique Rag, qui est jouée par Anna Kniowski, qui a été elle miraculeusement épargnée. Il décide alors de la faire passer pour un garçon. Un film de deux heures, en grande partie forestier, sur la relation fusionnelle exclusive entre un père et sa fille, dont certains dialogues d'ailleurs paraissent même, mais peut-être que je me trompe ou que je réécris l'histoire, est une réplique aux accusations de harcèlement sexuel dont Casey Affleck a fait l'objet, c'était il y a quelques années. Eva.
Alors, film apocalyptique, pandémie, on pourrait dire, oh là là, ça résonne avec aujourd'hui. Ce n'est qu'un prétexte ou ce n'est que secondaire. Les causes de l'épidémie ne sont pas le sujet. Il ne fait pas un film sur voilà ce qui se passe pendant une pandémie. C'est un film de l'après. Et le plus important, si vous voulez, c'est nous face au reste du monde. S'il regarde plus du côté du kit de Chaplin que du côté des films catastrophes, c'est qu'est-ce que c'est que l'amour paternel. Même dans ce duo, le père est plus important que la fille. Tout est sur l'amour qu'il lui porte. Et l'élément de suspense va venir de la peur qu'on peut avoir pour un enfant. Donc son ressort, c'est notre peur de parent. Et s'il disparaît, qu'est-ce qu'il advient de cet enfant ? Elle a 11 ans, la puberté va venir. Elle ne pourra plus cacher qu'elle est une femme, puisque cette pandémie avait éliminé l'immense majorité des femmes.
C'est ça la donnée essentielle.
C'est ça la donnée essentielle.
Du film et de la pandémie.
Mais je ne sais pas si c'est par manque de moyens ou si c'est pour se concentrer sur son sujet. Tout ce qui est le chaos est en fait laissé à notre imagination. Ce sont quelques éléments que l'on va voir. Une maison abandonnée, on voit de la poussière. C'est de temps en temps, quand il y a une rencontre, on voit le monde extérieur qui est dangereux et ça donne quelques scènes d'action. Mais l'essentiel, c'est jamais sans ma fille. C'est ma fille et moi. C'est quasiment qu'est-ce que c'est qu'être un père...
Et c'est aussi jamais sans ma forêt.
Sans ma forêt. Donc il prend vraiment ses défenses et illustrations du père. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être un père qui est un quasi-saint?
Mais est-ce que tu as aimé? Tu me dis pas, parce que tu racontes bien, mais...
Il faut déjà qu'on explique aux gens ce que c'est. Moi, je trouve que c'est intéressant, c'est pas un chef-d'œuvre. Je trouve qu'il porte un beau regard sur ce rapport père-fille, qu'il s'enferme un peu trop dans ce sujet. On a compris, un père, c'est important, un père, ça éduque, un père, ça amène un enfant vers la liberté. Ce que je trouve très beau, c'est, je ne vais bien sûr pas dire la fin, c'est qu'il se permet de ne pas conclure, de dire, nous sommes dans une sorte de calme temporaire, et on ne sait pas ce que sera l'avenir. C'est pas inintéressant du tout.
Xavier,
moi j'aime plutôt ça. Alors on est bien d'accord, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve que dans le registre, puisque quand même il s'y inscrit, de films apocalyptiques, on pense à La Route.
Sauf que là, on voyait vraiment des paysages apocalyptiques.
Oui, alors que là, il se concentre, et Eva l'a très très bien dit, sur cette relation entre la fille et le père. Je trouve que ça s'ouvre sur une scène que je trouve bouleversante, qui est une scène où il a placé la caméra au-dessus des deux corps. Ils ne sont pas enlacés, mais ils sont très proches l'un de l'autre. Ils racontent une histoire, et la fille, qui sait qu'elle sera peut-être la seule et unique femme de ce monde de demain, lui demande à chaque fois de revenir sur le point de vue féminin qu'elle trouve qu'il ne souligne pas assez. Elle trouve qu'il oublie un tout petit peu trop vite qu'elle est là et qu'il y a un monde de femmes qui certes a disparu, mais dont elle pourrait assurer la descendance. Et je trouve que cette scène-là, qui est très étouffante, qui est très anxiogène et en même temps qui est ouverte à l'imagination, à la poésie, grâce justement à cette conversation entre le père et la fille, elle est à l'image du film. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour constamment la protéger. Éviter quand même que, le plus possible, évidemment, l'extérieur, le danger, le chaos, ne rattrape effectivement cet enfant, cette enfance, cette innocence qu'il va essayer de maintenir. Et je trouve que le film est comme ça. Alors effectivement, de temps en temps, il ne peut pas empêcher...
Si vous permettez, ça mène pas très loin tout ça. Enfin, je comprends, je vois les qualités, mais ça mène à quoi ?
Ça mène au moins dans la manière, dans la facture dont, et la façon dont le film est mis en scène, par effectivement cette réflexion sur comment protéger un enfant... Comment essayer de lui éviter le chaos qui est extérieur? Il est toujours en train, quand il arrive dans une maison, de chercher les issues de secours s'il était attaqué. Oui, c'est une fable. Oui, effectivement, c'est un récit qui n'a peut-être pas énormément d'ampleur. Mais en termes vraiment de mise en scène, encore une fois, je trouve que c'est très maîtrisé.
Eric.
Oui, c'est intéressant, mais effectivement, ça manque un petit peu de suspense.
Ah oui, on cherche...
Parce que ce sont deux êtres de fuite, mais on voit assez mal ce qu'ils sont en train de fuir. C'est bien joli de rester tous les deux. Mais le film est très bien fait, très sensible, un petit peu longuet, un petit peu mollasson par moment. Mais on voit bien ce qui aurait été plus intéressant, c'est qu'il protège sa fille, ce qui n'est jamais vraiment dit. Parce qu'il est évident que les hommes vont vouloir lui sauter dessus pour perpétuer l'espèce, à un moment donné.
Ah ben, elle vaut de l'argent, c'est dit clairement à un moment dans une
scène. Clairement le sujet du film. Quand
même. Oui, mais enfin, c'est pas vraiment traité. Mais le film est très mystérieux, très lent, à l'intelligence de ne pas jouer trop sur les décors. Et contrairement aux films post-apocalyptiques, ils ne sont pas seuls au monde. Il y a un tas de gens. Les passages entre le père et la fille, quand il l'endort en lui racontant des histoires, qui est le leitmotiv et qui est filmé, comme Xavier l'a décrit, avec la caméra au plafond. fond, c'est toujours assez réussi. Ce père qui explique à sa gamine ce que c'est que la différence entre l'éthique et la morale. Et il y a aussi un
truc... Je crois que c'est la gamine qui l'explique qu'à son père, plutôt.
Peut-être.
C'est ça qui est assez amusant.
Ouais, c'est ça,
la gamine est très instruite.
Et il y a quand même un clin d'œil, c'est que la mère qu'on voit dans des flashbacks est jouée par Elisabeth Moss, qui est la servante écarlate.
Exactement.
Voilà. Il y a des petits détails. Elle a à peine connu
ça. Pour moi, c'est vraiment la clé du film, en fait.
Oui, mais enfin, le choix d'Elisabeth Moss. C'est quand même un film très référentiel et un petit peu long et avec une fin ouverte, mais c'est peut-être mieux que le film La Route, je trouve.
Jean-Marc.
Moi, j'aime bien le film aussi. C'est vrai qu'il est très référentiel. Mmh. Une référence clé, c'est effectivement Elisabeth Moss, qui est l'héroïne de la servante écarlate, où elle jouait quasiment la dernière femme féconde. Et là, elle est la mère de la dernière femme de la civilisation. Et je pense que le film est très métonymique. Effectivement, on ne voit jamais les poursuivants très très peu, dans quelques scènes extrêmement fugitives. Il reste vraiment sur ces deux personnages. Mais le fait d'avoir mis Elisabeth Moss là, clairement, le film parle de ça, de l'inégalité de genre, de la prédation masculine. Et je pense qu'il y a même une part de malice dans le tribut que fait Casey Affleck absolument, aux accusations absolument. D'harcèlement sexuel. Là, il dit, en fait, tous les hommes sont des prédateurs sexuels, sauf absolument. Moi. Moi, je suis un père exemplaire. Il se rachète et en même temps, il le fait d'une manière tellement appuyée que c'est presque ironique, à mon avis. Mais il y a une autre référence clé pour moi du film, qui est Gus Van Sant, qui est l'endroit oui. où est né Casey Affleck comme acteur, d'abord dans Will Hunting et ensuite dans Jerry. Et clairement, le film, c'est Jerry. C'est-à-dire que c'est deux personnages qui marchent pendant presque 2 heures et qui ont de très très longues conversations. Il y a des conversations dans Jerry de 10 minutes au coin du feu entre Madame Hunt et Casey Affleck, qui sont vraiment quasiment à l'identique, les conversations entre le père et la petite fille pour l'endormir. Et je pense que Casey Affleck se mesure à son père de cinéma, qui est Gus Van Sant. À mon avis, évidemment, il n'est pas à la hauteur. Et en même temps, je trouve que c'est remarquablement filmé et qu'il y a aussi ce regard sensible sur la nature et sur l'espèce humaine qui est un peu la marque de Gus Van Sant.
Light of My Life, le film de Casey Affleck qui sortira, attention, mercredi prochain, c'est-à-dire uniquement le 12 août. Terrible Jungle, le tout premier film qui est sorti le 29 juillet de Hugo Benamozig et David Caviglioli. Et le dernier, tourné par Catherine Deneuve, avant, vous le savez, d'être victime d'un AVC en novembre dernier. Elle interprète ici Chantal de Bellabre, une mère très possessive, elle-même ethnologue, partie dans la forêt amazonienne afin de retrouver son fils Elliot, qui est joué par Vincent de Dienne. Ce jeune anthropologue, disciple de Lévi-Strauss, veut étudier en Guyane un peuple mystérieux, les Otopis, dont on ne va pas tarder à comprendre qu'ils ne sont pas du tout les bons sauvages qu'il imaginait, avec Jonathan Cohen, alias Raspaillès, dans le rôle du chef des gendarmes, Alice Belaïd, qui s'est fait une tête de mougli et porte le prénom proustien d'Albertine, et une forêt qui, en réalité, on apprend pas dans le dossier de presse, n'est pas guyanaise, mais réunionnaise. Tout ça pour un mélange du sauvage de Tintin et d'OSS 117, Eric.
La jungle, je ne sais pas, mais le film, lui, n'est pas terrible. C'est... Hélas, pour un premier film, j'ai trouvé ça raté. Raté, toujours à côté de la plaque et pas sympathique. Un peu prétentieux.
Oh, pas sympathique, c'est pas antipathique. Qu'est-ce que tu racontes?
Ah, mais on sent les auteurs qui font les malins, qui sont plus intelligents que leurs scripts, plus intelligents que leurs acteurs et plus intelligents que leurs scénarios. Ce qui donne un objet qui est complètement bizarroïde. C'est le genre assez spécifique qui existe de temps en temps du film comique pas drôle. On est presque gêné, parce qu'évidemment, on pense à L'Homme de Rio, à des films comme ça, mais ça n'est jamais ça. Deneuve tire son épingle du jeu, elle est toujours souveraine, et c'est elle qui a la seule réplique drôle du film quand elle tombe sur un bouquin de son fils.
Moi, j'ai beaucoup ri.
Je ne sais pas pourquoi il a toujours admiré cet imbécile de Lévi-Strauss. et on a trop de clichés de gendarmes demeurés, d'indiens un peu caricaturaux, et c'est pas mal filmé. Mais je me suis emmerdé comme un rat mort. Je suis désolé, j'aime pas dire ça des premiers films, mais je suis sûr.
Tu viens de le dire, quand
je
même.
Suis sûr que le prochain sera meilleur.
Jean-Marc.
C'est une espèce de croisement improbable entre Apocalypse Now et La Septième Compagnie. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il pense à Apocalypse Now. Il y a un personnage qui s'appelle Conrad. Il y a un personnage qu'on croit mort, qui règne sur une tribu sauvage. C'est vraiment le Kurt, ce Marlon Brando dans Apocalypse Now. Il y a plein de références comme ça. On descend en fleuve. Enfin, c'est vraiment Conrad, Apocalypse Now. Sauf que la tonalité, c'est La Septième Compagnie. En plutôt plus mauvais. En plutôt moins drôle, moins
insensé.
Je suis pas sûr. En tout cas, il y a une volonté d'être farfelu tout le temps, d'être saugrenu, incongru, qui, moi, n'a provoqué en moi très peu de rire et beaucoup d'embarras.
Bon, Eva.
Ils prennent des comiques d'aujourd'hui, de Dienne, Jonathan Cohen, et ils utilisent en fait des vieux ressorts de la comédie. Par exemple, faire les gendarmes débiles, on ne peut plus faire ça. Enfin, ils se servent de comiques d'aujourd'hui pour leur faire jouer un comique d'avant-hier. Donc il y a cet aspect-là, il y a aussi la structure du film. On a d'une part Catherine Deneuve qui joue la mère possessive qui cherche son fils avec le gendarme Jonathan Cohen, et d'autre part de Dienne dans cette sorte de fausse tribu faite en fait de margoulins plutôt que d'une vraie tribu primitive. Donc, en fait, le film est en deux morceaux, c'est-à-dire c'est comme s'il claudiquait, et la piste qui arrive à un moment, qui est le mauvais esprit assumé, c'est-à-dire il arrive dans cette tribu, puisqu'il est lui aussi ethnologue comme sa mère, et en fait c'est pas du tout une tribu étudiée, c'est des margoulins qui trafiquent l'or, enfin ils mangent des chips, enfin ça n'a rien à voir, et lui il va devenir en quelque sorte le capitaliste qui va aller plus loin dans le système d'exploitation. Mais cette veine-là, qui semble être l'apogée du film, elle n'est pas vraiment exploitée. Donc on a plusieurs types de ressorts d'humour qui cohabitent, avec des petits moments qui vont avoir un petit quelque chose. Et l'ensemble est un agrégat qui n'est pas extrêmement drôle, finalement.
Xavier ?
Moi, tout film essayant de se profiler, en tout cas dans le sillage de Philippe de Broca ou de Jean-Paul Rapneau, a déjà ma tendresse acquise. Mmh. C'est-à-dire qu'on est en manque, effectivement, de ces films d'aventure un peu ironiques. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a quand même des pistes un peu modernes. Tu l'as d'ailleurs dit, la principale, l'ethnologue qui devient un hyper-capitaliste, voilà, et qui va mettre tout le monde à l'abattage du travail, quand même, pour essayer de faire rentrer de l'argent et des profits, interprété par ce naïf de Dienne. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien parce que...
Oui, mais c'est qu'un petit bout. C'est dommage. Il tient son film et il exploite
un
trottinette.
On est d'accord. Il y a un effet trop plein. Voilà. Il y a un effet trop plein. Mais de temps en temps, je trouve qu'ils ont capacité, les deux réalisateurs, à créer des scènes qui, certes, ne sont pas formidablement mises en scène, mais qui ont un certain rythme, comme la confrontation Jonathan Cohen-Catherine Deneuve, qui est à hurler de rire, où elle est effarée de la bêtise de cet homme. Oui, on a encore le droit de filmer des gendarmes un peu bêtes, bien au contraire, c'est quand même salutaire et salvateur. Et je trouve que là, subitement, il se passe un tout petit peu quelque chose. Jonathan Cohen, moi, je l'ai vraiment redécouvert. Je l'ai trouvé très drôle, je l'ai trouvé tout à fait dans le rythme. Il y a un moment où il demande son chemin, la nuit, il arrête une pirogue, je vais y arriver, avec sa lampe torche, et évidemment, il est incapable de retenir l'explication qu'on lui donne, parce que quelqu'un lui donne avec un accent prononcé québécois, donc ça le perturbe. Et la scène qui pourrait vraiment être inutile, elle devient très drôle, parce qu'il y a une espèce de comique de situation, de répétition un peu absurde, et quand ils vont dans cette veine-là, ils y arrivent. Après, il y a quand même un bémol, c'est le rythme.
C'est-à-dire qu'autant
de Broca et Rapneau avaient le sens du rythme, et pouvaient emporter même des scénarios un tout petit peu... mineur. Là, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a des bouts, et l'agrégat que devrait assurer la mise en scène, il ne l'assure pas complètement. Mais c'est un premier film, donc soyons indulgents.
Oui, mais il ne suscite pas la détestation.
Puis après Divorce Club, merci bien, quand même, voilà. Le jour et la nuit. Hein.
Terrible jungle,
autre bon
de
film.
Hugo Benabozig et David Caviglioli, sorti le 29 juillet. Hotel by the River, qui est sorti lui aussi le même jour, le 29 juillet. Film, comment le spécifier, onirique, labyrinthique, du sud-coréen Aung San Suu. On est dans un hôtel situé, comme le titre l'indique, au bord d'un fleuve, où un vieux poète convie ses deux fils. Il pense que sa fin est proche, il veut passer encore un peu de temps avec eux. Et au même moment, une jeune femme vient se réfugier dans cet hôtel après avoir rompu avec son compagnon, qui la trompait. Elle est rejointe par une autre femme, et les deux femmes deviennent les spectatrices un peu des discussions entre le père et ses fils. Film en noir et blanc, dont l'image est de toute beauté quand le paysage est enneigé. Film plutôt court, 1h30, 35, 36. Jean-Marc.
Ben oui, c'est assez beau. C'est vraiment un film à la fois de très basse température, le froid, la neige occupe beaucoup d'espace, mais aussi de très basse fréquence et de très bas volume. C'est vraiment du cinéma presque en sourdine. On se demande quand même assez longtemps quel va être le sujet du film. Aung San Suu s'amuse à les prendre assez tardivement. On met vraiment du temps à rentrer dans le film. On n'y rentre jamais vraiment. Et la fascination du film opère sur cette forme de détachement et d'air raréfié. C'est vraiment un cinéma du dénuement, du dépouillement extrême. Et dans les derniers films de Aung San Suu, je trouvais qu'il s'engageait quasiment dans une impasse, en retranchant de plus en plus dans son cinéma. Et là, je trouve qu'avec La Neige, il trouve vraiment l'élément figuratif parfait pour faire ce qu'il cherche, qui est de l'abstraction. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ce voile blanc pourrait tout envahir, qu'il n'y ait presque plus d'histoire à raconter, à peine des ébauches de personnages, et qu'on est... c'est presque de la peinture abstraite, quoi. Le blanc pourrait tout manger, et ça, c'est assez beau et assez fascinant.
Xavier.
Oui, c'est bien joli, mais ça fait... Non, mais là, je vais me livrer un exercice que je déteste. Moi, c'est un cinéaste que j'aime énormément, et ce film m'a terriblement déçu, je l'ai vu deux fois. Ce que tu dis est passionnant et tout à fait juste, on est d'accord, hein, sur le dénuement, sur l'abstraction auquel il se livre depuis quelques films, et qu'il atteint là. Sauf que c'est intéressant dans la perspective de l'œuvre d'Aung San Suu. Là, le film tel quel, moi, me tombe des yeux. Tu dis, à juste titre, qu'on met un temps fou à y rentrer. On en sort extrêmement vite. C'est-à-dire qu'à un moment, le motif blanc sur blanc... C'est l'effacement absolu, ça ne m'intéresse à aucun moment, je trouve, les situations.
Tout en étant d'une structure, je le disais, labyrinthique, parce que ça...
Ouais,
ça...
mais en plus, là, on a l'impression que le motif, il le reproduit, c'est des motifs qu'il a déjà visités, le poète, le cinéaste, les jeunes...
Je pense qu'il donne une forme plastique, cette fois, grâce à cette nage...
Oui, mais ça ne sauve pas pour autant, je trouve, des personnages très archétypaux qu'il a déjà visités, avec éminemment plus de complexité et de talent, à mon sens, hein, peut-être que je me trompe
sur les précédents. Non, mais je suis d'accord, peut-être que c'est pas un de ses meilleurs
films. Y avait de l'ironie jusque-là, elle a complètement disparu, le film est très programmatique, c'est-à-dire que on comprend vite où on va aller, puisque le père a la gentillesse quand même de jouer les bandes annonces à l'intérieur du film et de nous annoncer la fin, donc on peut pas dire qu'on soit énormément surpris. Il y a une scène assez drôle au restaurant, mais même ça, on l'a déjà vu, les repas éméchés où tout le monde est ivre mort, affalé sur la table, et où les trois hommes discutent d'amour, et il y a un contre-champ sur les femmes qui disent « mais ils ne comprennent rien du tout ». Non, Eva, je vais finir, tu auras le droit de te manger après. Mais tout ça, on l'a déjà vu, et voilà, il y a un petit effet patchwork qui n'est pas désagréable, parce que c'est un grand cinéaste, mais qui, pour moi, fait tomber le film quand même très avide.
Je suis pas du tout d'accord. Effectivement, je trouve que ce film, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon, si c'est tragique ou si c'est drôle. Cet homme qui dit « Venez mes enfants, j'ai eu le pressentiment de ma mort ». Mais il n'est pas malade, il se porte comme un charme. Est-ce que c'est une manœuvre pour les faire venir? On ne sait pas. C'est un poète, un grand poète, c'est un pique-assiette, c'est un mauvais père. Il a abandonné ses enfants quand il est parti pour une femme. Il n'a aucun regret. Le thème de l'artiste, grand classique, lui est un poète en déclin. Son fils est un cinéaste qui monte. Et là aussi, il y a de l'humour quand il dit « C'est pas un cinéaste pour les masses, mais c'est pas tout à fait un cinéma d'auteur ». Mais même des scènes qui devraient être tragiques... Enfin, je ne veux pas parler de la fin, mais il y a une scène qui devait être tragique. La manière dont elle est filmée et tout, on rit en même temps. Je trouve qu'il y a cette sorte de double jeu permanent. On pense qu'il va y avoir deux histoires parallèles. La fille qui pleure dans le giron de sa copine et le père et les fils. Finalement, le centre de gravité change. Les filles deviennent les spectatrices des hommes. Elles se demandent si elles vont intervenir dans leur histoire. Donc, je trouve qu'il y a un mélange de gravité et de drôlerie que je trouve vraiment très intéressant. Je trouve que non, ce film a son existence en soi, même pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu un film d'Ousiaoussienne.
Éric.
De Aung San Suu. Non, j'ai déjà
les paroles. On parle bien de l'Hôtel Bells River. Hein.
Oui, on n'y est pas.
Éric.
C'est le 518e film de Aung San Suu, c'est le film de trop, là, visiblement.
Il y en a encore un qui arrive.
Hein. Ça va être quelque chose, parce que c'est vraiment une aquarelle, là. Mais c'est une aquarelle où il n'y aurait ni couleur, même pas de toile. C'est rien, c'est vide, c'est blanc. C'est pas labyrinthique du tout. Ça s'enfonce dans la neige,
L'intrigue est labyrinthique.
L'intrigue, quoi. Un type qui dit à ses enfants qu'il va mourir.
Non, mais là, avec les femmes qui arrivent.
Oui, les deux femmes. Non, mais les deux femmes, elles ont raison. Elles passent leur temps à dormir. Là, il y a que ça à faire dans ce film.
c'est très très beau sur la somnolence, le film.
Oui, c'est un film.
On passe son temps à s'endormir.
Et même soporifique, d'ailleurs. Mais c'est dommage parce qu'il n'y a même plus la grâce, la gratuité qu'il y avait souvent dans ces films. On boit à peine. Là, il y a une petite scène au restaurant. Il n'y a plus les baignoires de soujou qu'il y a d'habitude, là, l'alcool local. Et là, c'est tellement vain, tellement creux, avec un petit côté presque vaniteux, parce qu'évidemment, le poète, la serveuse lui demande de lui dédicacer son livre.
Ça,
un des deux fils est réalisateur. Il y a une des deux filles qui veut un autographe. Ça va pas du tout, ça. Ça m'a rappelé un proverbe toulousain. Laisse tomber la neige, ça ne fait pas de bruit.
Hotel by the River, le film de Aung San Suu, The Climb de Michelangelo Covino, sorti également le 29 juillet, c'était une semaine chargée, avec Kyle Marvin et Michelangelo Covino. Kyle, c'est le gentil, le généreux, et Mike, c'est l'égoïste, le narcissique, et les deux sont les meilleurs amis du monde. Il n'aime rien tant que gravir à vélo l'école française. Et pendant une ascension, Mike dit à Kyle qu'il a couché avec sa fiancée. Il le dit en pédalant, certain que son copain ne sera pas capable de le rattraper pour le tuer. Est-ce qu'ils vont rompre? Je ne vous le dis pas. Le film, qui a des dialogues parfois assez Woody Alléniens, donne en bonus un petit rôle à Judith Godrèche. un extrait d'un film de Pierre Etex et bien sûr des clins d'œil à César et Rosalie dont on parlait il y a pas longtemps, Masquer la plume. Le film a eu le coup de cœur du jury dans la section Un certain regard. C'était à Cannes l'année dernière, puisque vous savez qu'il n'y a pas eu de Cannes cette année. Eva.
La première scène est formidable. C'était un court-métrage qu'il a repris dans ce film-là. La manière, justement, on voit ces deux hommes pédaler et la manière dont l'un va dire à l'autre « je vais coucher avec la femme que tu vas épouser », comment il filme ça. Et puis après, le film est construit par morceaux.
C'est par des scènes, c'est des scénettes.
C'est des scénettes, des scénettes, etc. Voilà, exactement. Mais ce jeu-là, c'est une sorte de procédé qui finalement nous oblige à remplir les trous entre les moments. Alors combien de temps a passé ? Et on se dit qu'après, bon, c'est le syndrome de l'amitié toxique, mais finalement, c'est comme une histoire d'amour. C'est-à-dire que cette histoire-là, elle est plus forte que toutes les autres histoires qui peuvent arriver dans la vie du gentil, finalement. C'est ça, comme dans une histoire d'amour, on peut se fâcher, on peut se détester, mais ça demeure le lien essentiel. Et la manière dont il raconte ça, et moi je trouve très réussi. Parce qu'il y a en même temps un regard sur l'Amérique, les archétypes de l'Amérique, les Thanksgiving, Noël, l'enterrement de vie de garçon qui est glauque. Il y a une forme de cruauté aussi dedans. Et les femmes dans ce film ne servent que... C'est ce qui va lier les deux hommes en quelque sorte, puisque l'un veut chaque fois piquer la femme de l'autre. Les femmes sont une sorte de révélateur entre eux. Alors il y a des moments où ils introduisent des petits bouts de comique dans le comique, des petites scènes comme avec des gens qui jouent de la musique ukrainienne ou russe, je ne sais pas, dans la neige, qui n'apporte pas grand-chose. Mais cette manière de construire le film et de raconter ce lien essentiel en quelque sorte entre deux hommes, pour moi, est réussi.
Xavier, est-ce que tu as bien pédalé avec ces deux
amis ? Moi, pas du tout, pas un instant. Je l'avais vu à Cannes, ça m'était tombé des yeux, j'étais sorti assez furieux. Je l'ai revu et je suis toujours aussi furieux contre le film. C'est-à-dire, mais Eva, tu l'as dit toi-même, les femmes ne servent qu'à.
Oui.
Donc déjà, pour moi, c'est déjà un aveu d'échec. Enfin, je veux dire, tu
mais
ne peux pas. Mais parce que elles ne sont que des fonctions.
Que
mais
de
si.
Mais regarde les fonctions. Et de révéler leur
regarde
rapport.
Les fonctions qu'elles occupent. C'est-à-dire qu'avant l'aveu de l'adultère, il y a là déjà le gentil, donc un petit peu rond hein, quand même, par opposition avec son copain qui est le méchant, mais svelte et sportif. Il dit oh là là, les dernières copines, c'était une catastrophe. Il y en a même une qui a essayé de me convertir à l'athéisme. Alors aux États-Unis, évidemment, c'est le diable. Enfin, je veux dire, c'est pas possible autrement. Et elles vont toutes avoir cette fonction limite misogyne, c'est-à-dire Judith Godrèche va le tromper pratiquement devant ses yeux dans la scène de l'hôpital. La nouvelle petite copine que la famille entière déteste, puisqu'elle a largué notre héros au lycée, est une emmerdeuse hyper castratrice qui va d'ailleurs continuer le travail de maman. Enfin, il y a un regard sur les femmes. Alors, l'amitié toxique, l'amitié solidaire, le lien entre deux mecs, je m'en fous comme de l'entrante. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut regarder un peu les personnages quand ils sont écrits. C'est terriblement artificiel, à l'image d'ailleurs de ces plans séquences que tu trouves formidablement tournés. Moi, je les trouve quand même, mais vraiment
j'ai
purement
dit la
mécanique.
Phrase, là, formidablement tournée.
Bon,
tu l'as entendu.
Tu les as salués.
J'ai dit le début. La scène du début est vraiment
mais
très bien faite.
C'est même pas vrai. Le petit gros qui pédale derrière lui, il vient de lui dire que sa future fiancée avait couché avec donc son copain. Il fait un tour sur lui-même avant de le rattraper. Ben oui, bonhomme, bien sûr que tu vas pas le rattraper.
Mais je comprends pas, c'est pourquoi ça suscite autant de haine. Il met un processus.
Mais parce que c'est hyper moralisateur. Mais bien sûr, le méchant de l'histoire, celui qui n'arrête pas de piquer les copines du gentil, petit rond, il grossit à un moment. Je veux dire, il est devenu alcoolique, il est devenu adipeux. Il y a une scène où il regarde les trésors de son ancienne gloire qui sont ses titres de noblesse quand il était au lycée et qu'il était un beau sportif et tout ça, on cesse de le punir, ce type-là. Enfin, je veux dire, il y a un moment, je suis désolé, mais il faut regarder.
Mais c'est toi qui es moralisateur, là,
mais
tu
pas
cherches de la morale où il n'y en a pas.
Mais bien, je regarde le film comme il est écrit, comme il est filmé, tout ça est extrêmement... Mais ça, on voit les choses venir de loin et tu as raison, les coquetteries de mise en scène qui traînent avec des gens qui chantent,
oui,
il y a un cœur de fossoyeur à un moment qui ne sert à rien, ça tire la ligne, c'est tape à l'œil.
Et tous ces clins d'œil dont tu ne parlais pas au cinéma français, dont on sent bien qu'il veut souvent s'y référer.
Il y en a marre qui cite des textes Truffaut, il y en a ras-le-bol, quoi.
Éric.
Mais ce serait une comédie italienne, Xavier adorerait ça, oui. Parce que c'est un film très très marrant, très humain, et c'est un film non seulement sur l'amitié, mais c'est sur le vieillissement, sur l'âge qui arrive, et qu'est-ce qui vous reste à 50 ans ? Ben, il reste l'ami. Les femmes sont passées, et contrairement à ce
que tu dis... Il reste le vélo aussi.
Il reste le vélo, oui, et comme le Tour de France a été annulé pour l'instant, vous pouvez voir des cyclistes sur le Mont Ventoux au début de ce film, et la séquence est vraiment tordante.
Avec deux chevaux.
Oui, exact. Ouais. Enfin, deux chevaux, la voiture.
Vous n'avez pas vu les ficelles avec laquelle
il y a aussi des chevaux derrière. Ouais. Non, on voit la maturité qui arrive, on voit que le rôle des femmes n'est pas du tout négligeable, puisque la femme qu'il va épouser, là, elle va lui apprendre à dire non. Il y a toute une référence aux cérémonies d'une vie, le mariage, l'enterrement de vie de garçon, Thanksgiving, le jour de l'an. Et j'ai trouvé ça très très habile, un petit peu relâché par moment, et puis un film américain où non seulement quelqu'un cite un écrivain comme Jim Harrison, ça n'est pas rien, mais un cinéma où on projette César et Rosalie au milieu de nulle part.
Et Pierre et Tex.
Et on projette Pierre et Tex, et avec les chansons de Gilbert Bécaud en espagnol. Non, le film est très marrant et très prometteur.
Jean-Marc.
Moi je suis dans la team Xavier.
Welcome.
Je trouve le film extrêmement antipathique. Effectivement, les personnages féminins sont des fonctions, et le film en plus ne déconstruit absolument rien des stéréotypes de la masculinité. Et il y a cette idée qu'une amitié masculine, ça repose sur pas beaucoup de tendresse, mais une espèce de rivalité phallique, perpétuelle, que le film ne condamne pas, mais trouve ça très sexy. C'est-à-dire que on sent bien dans le regard de l'auteur que la seule façon un peu viable pour deux hommes d'être amis, c'est de se chamailler tout le temps dans une sorte de compétition. Et je trouve qu'on est vraiment dans des stéréotypes de masculinité assez désagréables et regardés de manière extrêmement complaisante.
Bon, c'est un peu comme Jean-Marc et Eric ont masqué la plume. Hein. Ah, c'est un peu de ça. Le vélo.
D'ailleurs, je suis venu à vélo.
Le vélo en moi. The Climb de Michael Angelo. Covino, quelques mots de Madre de l'espagnol Rodrigo Sorogoyen, à qui on doit l'excellent, je ne sais pas si vous en souvenez, thriller politique El Reno. Ça, c'est un film qui est sorti le 22 juillet. À l'origine de ce film, il y a un court-métrage où une mère, Elena, recevait un appel téléphonique de son fils de 6 ans qui était en vacances avec son père, un père qui avait laissé l'enfant tout seul sur une plage des Landes. La mère, qui est jouée par Marta Nieto, était alors partie en France pour tenter de retrouver son fils disparu. Et 10 ans plus tard, on y est. Elena a donc quitté l'Espagne. Elle travaille dans un restaurant de bord de mer dans les Landes. Et un jour, elle rencontre un ado de 16 ans qu'elle croit être son fils. Je ne vais pas en dire plus. Un drame intimiste qui, pour moi, a l'avantage de ne pas être un mélodrame, dans le mauvais sens du terme. À mon avis, un peu trop long, 2h10. Mais dites-moi ce que vous en pensez, Eric.
La première séquence est phénoménale. Là, le coup de téléphone au gamin qui ne sait pas où est son père.
C'est terrible.
Avec
hein,
la mère qui est au bout du fil, complètement paniquée. C'est quelque chose, on se dit, ça va être un grand film. Et pof, 10 ans après, c'est terrible, c'est la catastrophe. On se retrouve dans un film français. C'est tous les clichés, la fille qui cherche son fils, qui a un petit ami. Et en plus, il y a un truc terrible, c'est que tout sonne faux parce que visiblement, c'est du traduit, les dialogues. C'est affreux. Et ça prouve que les cinéastes doués étrangers ne doivent jamais venir en France tourner, que le passé de Faraday s'était complètement raté.
Avec la Covid, t'inquiète pas, ils pourront pas venir pendant quelques temps.
J'allais le dire, d'ailleurs.
Madame 2 de Ophuls, des grands films français de cinéastes étrangers, il y en a quand même.
Pas en ce moment, pas depuis longtemps. Elle de Verhoeven, n'en parlons pas.
C'est un chef-d'œuvre absolu.
Non, mais là, j'ai été.
Et ton copain Woody Allen qui.
Ah, mais j'aime bien ce qu'il fait à Paris.
Ah, voilà, c'est ça.
Il est pourtant très mauvais.
Non, j'ai trouvé ça raté. Et puis, à part l'actrice qui est quand même assez prodigieuse,
je rappelle son nom,
qui est
fébrile,
mais on n'y croit pas du tout. Le gamin joue comme une patate, le rouquin frisé.
De toute façon, j'ai fait exprès de ne pas dire la vérité.
Oui, mais moi non plus. Mais la vérité, c'est que le film n'est pas bon.
Jean-Marc ?
Pas vu.
Xavier ?
Je ne suis pas aussi sévère qu'Éric, mais c'est vrai que c'est un cinéaste dans le thriller qui nous a quand même passionnés et qui a relevé un tout petit peu le niveau du genre.
Mais je pense que ça joue beaucoup, ça, parce que...
Certainement, on les a en mémoire de toute façon, et il n'y avait pas une minute de trop alors qu'il durait déjà de bonnes heures comme celui-ci, et là, on a quand même l'impression que ça se délite, qu'il cherche désespérément à remplir la 1h50 qu'il a rajoutée à ce court-métrage de 10 minutes, qui déjà... pâtit de quelques effets un tout petit peu appuyés, le gamin raccroche au
mais
bon
c'est
moment.
Pas mélodramatique.
Non, c'est pas mélodramatique. Mais on sent qu'il veut faire son plan séquence, on sent qu'il a bien installé ça, on sent que le gamin raccroche quand il faut, on sent que la ligne elle est coupée quand il faut pour pouvoir relancer un tout petit peu les choses et qu'on puisse circuler dans l'appartement. Bon, mais pourquoi pas un court-métrage? C'est qu'effectivement, il y a une suite qui est, pour les meilleurs moments, cette relation fusionnelle peut-être incestueuse entre cette mère et ce jeune garçon. En aucun cas, on ne peut croire que ce soit son fils, hein, de toute façon.
On ne sait pas.
Il parle un français parfait, alors que 10 ans plus tôt, il était espagnol. Enfin, voilà, non.
Oui, mais il parle un peu espagnol.
Non, non. Le problème, c'est qu'intervient la famille de ce gamin. Et là, on tombe vraiment dans les archétypes du téléfilm France Télévisions, quoi. C'est-à-dire Anne Consigny.
Je pense que c'est la famille qui explique les 2h10. Hein.
Mais voilà. Et ça, ça n'est pas du tout une bonne idée. On ne sait pas pourquoi ils empêchent cette femme et ce jeune homme de se voir. Enfin, il y a un moment où vraiment l'artificialité du scénario se voit et la mise en scène, qui reste quand même un peu tape à l'œil aussi de temps en temps, ben malheureusement ne fait rien pour dissimuler les soucis de scénario.
Eva,
alors, elle aime beaucoup.
Non. Oui, non, mais on va pouvoir être d'accord un jour.
Oh, zut, c'est
zut alors. Les alliances se brisent. Le début, effectivement, je reviens pas dessus, formidable. Après, on se dit, il est gonflé. 10 ans après, contre-pied, film calme, la plage, etc. Au début, on est d'accord sur partir pour autre chose. L'imprévisibilité, quand elle commence à s'intéresser au garçon, pourquoi pas? On se dit, tiens, il y a peut-être la piste. Je trouve qu'il ne joue pas sur nos attentes, c'est ce qu'il peut y avoir de bien. On va pas vous faire le suspense. Je pense qu'il n'essaye même pas de nous faire croire que c'est son fils. Mais après, il y a aussi chez elle, je la trouve pas extraordinaire dans son jeu, mais on imagine une forme de sécheresse et de dureté du survivant. Je me fous de tout le reste. Si j'ai envie de coller à ce garçon, je vais le coller. Mais tout ça, après, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de scénario. Rien ne tient. La piste qui serait pseudo-incestueuse s'effrite. Les parents jouent un rôle faux. Après, il n'y a plus de film. Voilà. Il y a 10 minutes possibles d'enchaînement où on se dit, on ne sait pas vers quoi on part. Et,
ne ratez
et oui,
pas le début. Hein.
Voilà. Mais après, je parle après le court-métrage, après le début. Je disais qu'il y a un petit quart d'heure d'indécision qui est intéressant, mais après, il n'y a rien. Il n'y a plus de film.
Madre de Rodrigo Sorogoyen, ne manquez pas les précédents thrillers, si j'ose dire, de ce cinéaste espagnol. Allez, pour fêter les 40 ans du légendaire Flash Gordon, réalisé en 1980 par Mike Hodges, Studio Canal a sorti le 5 août une édition collector où le film a été numérisé à partir du négatif 35 mm d'origine. L'occasion de se replonger dans ce film de SF tiré de la BD créée par Alex Raymond en 1934 et paru en France sous le titre de Guy l'Éclair. Une plongée dans un monde extraterrestre, Mongo, où sévit ce tyran intergalactique, l'empereur Ming, que le footballeur Flash Gordon et ses amis, le docteur Zarkov et Del Arden, vont affronter avec Sam Jones en Flash Gordon, Melody Anderson, Ornella Muti, Sublime Muti, et Max von Sydow, évidemment, en empereur Ming. Xavier, bon, je sais que tu es un peu en deuil parce qu'on a appris récemment que le Bob l'éponge ne sortait pas. Il était annoncé pour la fin du mois de juillet. Et je sais que je vois à ton air que ça a été un choc pour toi.
Ah, je ne m'en remettrai
d'autant
sans doute
qu'il
jamais.
Il paraît que c'est reporté à l'année prochaine. Et
ah,
encore,
ce sera sans doute même sur une plateforme. Hein, directement.
Sur une plateforme. Donc je sais que c'est dur. Est-ce qu'au moins la ressortie de Flash Gordon t'a donné un peu de réconfort?
Flash Gordon, c'est peut-être avec Gwendoline de Jules Jacquin les deux films qui pour moi représentent la quintessence du nanar, mais au moment où le nanar devient chef-d'œuvre. C'est-à-dire devient une espèce à deux moments absolus. Mais on sous-estime l'importance de ça.
À quel moment historique où le nanar devient chef-d'œuvre?
Non, mais ne rigolez pas. En Angleterre, il y a un journal très sérieux de référence qui a mis la ressortie en DVD, 25 ans plus tard, de Flash Gordon comme une œuvre culte. C'est à hurler de rire, évidemment, de la première à la dernière seconde. Il n'y a pas un moment où on se poile pas. Imaginez le Puy du Fou, mis en scène dans un bar alternatif gay à Berlin dans les années 70, quoi. C'est-à-dire une espèce de mélange totalement improbable de combats, d'acteurs médiocres. Ornella Muti, alors, elle est la fille du méchant. Évidemment, elle est très méchante, sauf que quand elle voit la carrure de Flash Gordon, elle se dit, oh non, j'en veux. Donc, elle commence à devenir une espèce de chienne lascive qui court après Flash Gordon. Elle est quand même plus sexy que la petite copine qui, elle, franchement, est un peu fadasse. Max von Sydow, il avait des problèmes d'argent, il a le droit d'aller là-dedans, hein, je veux dire, il n'y a aucun problème. C'est à hurler de rire. C'est ultra gay, c'est uber gay. Enfin, je veux dire, je ne sais pas quelle est la sexualité du réalisateur. Tous les vaisseaux spatiaux sont des bites.
Et tes vaisseaux à toi, visiblement.
Ah, non, mais il y a une sorte de combat sur une espèce de plateforme mouvante avec des pics.
Avec Timothy Dalton qui sera plus tard.
C'est un chef-d'œuvre, ça.
Un médiocre James Bond. Mais c'est vraiment un film de mec, quoi. Et c'est. Oh, non, mais c'est à hurler de rire. Vraiment, il faut y aller, quoi.
C'est ton avis, Jean?
Oui, moi, j'aime bien ça.
Non, mais Hubert Gay.
Ah oui, vraiment. Le Flash Gordon, on a vraiment l'impression de voir la couverture d'un magazine de charme dans les années 50, d'une magazine de charme gay, vraiment les beefcakes de l'époque, avec des cheveux mi-longs, un physique de surfeur. On est dans une esthétique ultra gay, effectivement.
Ils sont allés chercher Queen, quand même, pour le générique.
Tu as cité le nom du metteur en scène, mais le vrai auteur du film, c'est son producteur, Dino De Laurentiis,
oui,
qui est un grand producteur, qui a travaillé avec de très grands cinéastes, mais il y a toute une filière de sa filmo, qui est c'est plutôt les films fantastiques ou de science-fiction comme Barbarella, Conan le Barbare, et même Dune, qui pourtant est réalisé par Lynch, où il se lâche complètement, et on est dans une sorte de kitscherie complètement lâchée, complètement délirante, que moi je trouve assez amusante, ouais.
Qu'en pense Luper Gay, Eric Neuf,
sinistre.
Flash Gordon en français, c'est Guy l'éclair. Je comprends, oui, grâce à Jean-Marc et Xavier, que ça devrait être Guy la fermeture éclair, parce que je n'avais pas compris que c'était un film Uber Gay, parce que c'est vraiment le navet. Ils l'ont pas fait exprès que ce soit aussi moche aussi.
Non, à l'époque, non.
Eh ben oui, mais budget, parce que quand même, tout
c'est...
est.
C'est les goûts de Dino De Laurentiis. Moi, j'aime
mais
beaucoup.
Mais oui, mais je m'en fous de Dino De Laurentiis, à part qu'il a épousé Sylvana Mangano, je crois. Il a meilleur goût pour le mariage que pour les décors. Les décors, d'ailleurs, ont été faits par un type qui s'appelle Fellini, comme le nain du film, parce que Laurentiis est tellement dingue qu'il avait demandé, je crois, à Fellini de réaliser cette tartouillade-là. Mais c'est épouvantable, là. Il y a une planète qui ressemble à une molaire arrachée. Les costumes brillants ont l'air d'être faits en papier de tablette de chocolat. On a toujours l'impression d'être dans
celui de Max von Sydow pesait 90 kilos.
Oui, le pauvre. Et oui, il est déguisé en Fu Manchu intergalactique. Le Flash Gordon, c'est un blondasse peroxydé qui a la plus belle gueule d'abruti qu'on ait vu au cinéma depuis l'entrée d'un train dans la gare de la Ciotat. Hein.
Il
a pas vraiment footballeur, le pauvre.
Il n'y a pas une expression sur son visage.
Rien. Jamais. Bah, lui, il est imperturbable. Il pilote à un moment donné... un scooter désert qui ressemble à un Vélib enluminé par Anne Hidalgo pour la fête de la musique. C'est... Non, peut-être que si on le voit à plusieurs, on rigole, mais avec du soujou...
En tout cas, vous avez remarqué que l'édition collector, elle est luxueuse. Hein.
Mais c'est, moi, c'est,
Eva,
c'est les moments où je me dis...
Ou pas ?
Oui, non, je ne l'avais jamais vu,
moi
je ne vais pas prétendre l'avoir vu. Je l'ai vu, tout simplement. Et c'est là où je me dis, je suis payée, finalement, pour voir des films, parce que sinon, j'aurais arrêté depuis bien longtemps.
Et grassement, ouais, au masque et la plume.
Et extrêmement grassement, disons-le. Donc, sans ça, j'aurais arrêté. Parce que cet excès, ce côté complètement délirant, ce lâche, débridé, ça devrait être génial à revoir. On devrait se dire, mais ils étaient fous à l'époque, ils pouvaient tout se permettre. Mais tout est laid. Les couleurs vont pas ensemble. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ça a l'air, comme tu dis, d'être fait en papier de chocolat. Tout est moche. Mais il n'y a pas un moment qui n'est pas laid. Donc, je ne sais pas sur quel public il compte. Je sais pas.
Ben, on le saura sans doute. À mon avis, on le saura sans doute dans le courrier. Donc,
mais vous l'avez déjà vu, ça compte pas.
Donc, selon votre sexualité, vous vous jetez ou non sur Flash Gordon. Et c'est une édition collector de Studio Canal. On est malheureusement, on va devoir aller vite pour évoquer ces fleurs de Shanghai sublimes du Taïwanais Usao Hsien, ressorties sur les écrans, copie restaurée le 22 juillet. Et dont le DVD est disponible chez Carlotta, un film de 98 tiré du roman de Han Ziyun qui se déroule, vous le savez, dans le Shanghai du 19e siècle où Wang est un haut fonctionnaire des affaires étrangères, incarné magnifiquement par le grand ami de Jean-Marc et Tony Leung, fréquente les maisons des fleurs, c'est-à-dire les maisons closes, et se partage notamment entre deux courtisanes, Ruby, c'est Michiko Hada, et Jasmine, c'est Vicky Wei, un film, je le disais, à cette esthétique sublime, et j'ai réécouté que Le Masque avait salué haut et fort en 98, et même, d'une certaine manière, la sortie avait été assez timide au début, et Le Masque avait contribué à en faire le succès qu'on sait. Donc je vous demande rapidement de me dire ce que vous en pensez, Jean-Marc.
C'est très très beau, le génie du film, c'est vraiment d'être composé que d'une quinzaine de plans. C'est de très très longs plans qui s'ouvrent et se ferment en corolle par des fondus en noir, vraiment comme des fleurs, et qui montrent un bordel où on n'a jamais de rapport sexuel, où il n'y a que des rapports de pouvoir, de jalousie amoureuse, d'argent, et aussi d'enivrement et de nourriture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes de repas. C'est-à-dire que tout ce qui compose la vie se retrouve dans ce bordel, dont on ne sort jamais. C'est vraiment un grand film d'intériorité. Mais on ne fait jamais l'amour dans ce bordel, sauf dans un moment fulgurant qui est le seul raccord entre deux plans où il n'y a pas un fondu au noir qui les sépare, où en passant son regard sous une porte, tout à coup, on aperçoit l'esquisse d'un rapport sexuel. C'est vraiment un film sublime, c'est un grand film.
Il faut le dire, n'y allez pas pour de mauvaises raisons, mais allez-y pour des bonnes raisons.
Exactement. Qui est une des plus belles mises en scène qui soit.
Eric.
Ah bah, on peut dire que ça n'est pas les filles de joie dont on a parlé récemment.
Ah, tu ne recommences pas.
C'est l'antidote.
À faire des comparaisons, s'il te plaît.
Non, mais là, c'est la beauté pure. On est tellement plus habitué à ça.
C'est l'esthétique pure. Oui.
C'est superbe, c'est sublime. J'aime pas employer des mots comme ça, mais on regarde ça en se disant, bah, ce type-là est né pour faire des films. Il y a pas l'ombre d'un doute, et on baigne dans cette lumière mordorée, un peu comme dans In the Mood for Love. C'est un film prodigieux, c'est aussi beau qu'un roman, c'est la chronique de cette maison close, et on aimerait y passer sa vie, même si ça doit nous ruiner complètement.
Eva.
J'espère que Le Masque et la Plume aura, plus de 20 ans après, le même effet pour que les gens aillent voir le film ou faire son succès. C'est magnifique, effectivement, et c'est une cérémonie sociale qui nous montre. Il nous montre, il faut être gonflé pour être dans un bordel et mettre le sexe hors champ. C'est quand même dingue. Il nous montre comment la société s'est organisée. Ces hommes-là, finalement, ils viennent chercher une forme de romanesque. Ces courtisanes, elles ont été formées, éduquées, achetées quand même, 7-8 ans, mais c'est l'élite, en quelque sorte.
Oui, c'est les hommes de pouvoir aussi.
Voilà. Mais c'est l'élite, elles ont été formées pour fasciner les hommes. Et ils viennent, ils acceptent qu'elles les engueulent, qu'elles fassent des caprices, qu'elles négocient le paiement de leurs dettes. Et à un moment donné, ben, le pouvoir s'exerce. C'est-à-dire que s'il veut quitter l'une pour l'autre, il le fera, mais il aura dû négocier. Il y a de la cruauté, il y a toutes sortes de choses dedans. Et il y a une forme d'envoûtement, parce qu'à bout d'un moment, on se dit, alors, c'est annoncé, on passe de émeraude à rubis, à un tel et tout, et on se dit, alors, là, c'est à laquelle, là, on est là. Et au fond, il ne nous perd pas. Et cette peur d'être perdu maintient l'effet d'envoûtement. Et donc, moi, je ne l'ai pas vu depuis qu'il était sorti en 98, et je dirais que l'effet est intact et qu'il est même décuplé. Les gens qui le verront ne verront pas, entre guillemets, un vieux film. Ils verront un film de tous les temps et un film qui serait sorti aujourd'hui, on dirait, mais quel grand film. Et le temps n'a rien à voir avec l'affaire, donc voilà.
Encore une fois, allez-y en salle,
vraiment, puisque
sorti
hein,
en salle.
C'est magnifique.
Si vous avez des, voilà,
avec
des difficultés,
ça existe,
bien sûr. Il faut le grand écran. Ouais. À défaut, il y a quand même ce DVD qui est disponible. Je sais que c'est ton film de chevet, presque, Xavier.
Moi, j'adore ce film, j'adore Océan Ocean et j'adore en particulier les
C'est mieux que Flash Gordon ou pas?
C'est dans un autre registre. Mais Jean-Marc a dit le mot, je vais être très bref parce que vous avez tout dit, c'est remarquablement mis en scène. Ça pourrait être du théâtre filmé, ouais, puisque nous sommes dans des huis clos, ouais, en plan séquence. Et la manière dont la caméra oscille pendulairement, comme ça, caresse les mains. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le sexe, mais la sensualité, elle est omniprésente. Une main qui déplace simplement un bol ou qui le recouvre d'un petit couvercle, c'est quand même quelque chose déjà débordant de sensualité, de l'indifférence de certains personnages, la solitude de Tony Leung qui n'est jamais au premier plan, alors que c'est quand même la grosse vedette du film, et qui est là derrière avec une impassibilité mélancolique. Enfin, il arrive à choper sans insister à travers un mouvement unique de mise en scène. La musique, moi je l'ai à la maison, je l'écoute régulièrement, je la trouve mais bouleversante. Enfin, tout fait sens. La lumière, le décor, les costumes, les acteurs, le sens de la mise en scène, la rythmique même d'ailleurs, musicale pratiquement de la caméra, c'est un film sublime.
C'est donc Les Fleurs de Shanghai de Hou Hsiao-hsien. Je vous le rappelle, allez, comme le disait Eva, en salle. Il faut que les mères allez au cinéma. Ça y est, depuis le 22 juillet. Et sinon, DVD disponible chez Carlotta. Le temps est venu des conseils. On va commencer avec Eva.
Alors, pendant tout l'été, sont ressortis et ressortent une série de films, une rétrospective en quelque sorte, qui s'appelle Forbidden Hollywood, ou en français Hollywood interdit. C'est les films de ce qu'on, de ce qu'on a appelé le pré-code, c'est-à-dire avant qu'il y ait le code de morale, en 1934, qu'on a appelé aussi le code Hines. Par exemple, assez après, on voyait jamais un couple même marié dans un lit. Il fallait qu'il y ait deux lits. Donc, il y avait des règles de moralité très strictes. Avant ça, pendant peu de temps, 5-6 ans, les studios et les réalisateurs se sont lâchés avec des films d'une liberté, de refus de tous les interdits moraux. C'est 10 films et c'est vraiment formidable parce que c'est un pan de cinéma américain qui est mal connu. C'est des films de la Warner qu'on avait pu voir au festival Lumière, qui a d'ailleurs beaucoup joué pour que ces films puissent être montrés, ces 10 films-là. Je vous signale une autre chose aussi, c'est que la Cinémathèque, qui avait mis des films gratuits, vous savez, Cinémathèque / Henri, pendant toute la période du confinement, l'a arrêté d'en mettre, mais tous les films qui sont déjà là continue à être visible gratuitement.
Très bien. Le conseil de Xavier.
Un film japonais qui s'appelle L'infirmière et qui est signé Koji Fukada. Alors, il a été sélectionné, pas ce film-là, mais ce cinéaste-là, par la sélection virtuelle du prochain festival de Cannes, enfin, de celui de 2020 en tout cas. Mais donc, c'est pas celui-ci. Hein. C'est pas celui que Thierry Frémaux avait gardé pour sa sélection officielle. Là, ça s'appelle L'infirmière. C'est l'histoire d'une femme qui est donc infirmière dans une famille. Tout se passe très bien jusqu'au jour où la fille disparaît et que le hasard de l'enquête met peut-être l'infirmière au premier rang des suspects. Et subitement, cette femme qui est aimée par toute sa famille, qui en est le pilier puisqu'elle s'occupe de la vieille mère qui était malade, devient un personnage non grata, une femme dont tout le monde se méfie et sur laquelle la société entière, la presse, les voisins, va commencer à focaliser son ire et son... Et c'est un film, alors toujours comme chez Fukada, dont on avait pu voir l'extraordinaire Harmonium, il n'y a pas un excès dans la dramaturgie ni dans la mise en scène. C'est un film très calme, très serein, tendu, mais vraiment comme un élastique. Et on attend le moment où ça va péter. Et effectivement, il y a un moment où ça va péter. Et ça raconte énormément de choses sur le Japon d'aujourd'hui et sur la place de la femme. Non, non, c'est un grand film. L'infirmière de Koji Fukada.
Qui est sorti depuis quelque temps.
Qui est sorti, il y a une dizaine de jours.
Mon conseil, et je sais que je ne suis pas le seul, c'est la toujours excellente revue Schnock, je ne sais pas si vous la connaissez les uns et les autres, qui consacre Bip Bip son numéro d'été aux immarcessibles bronzés avec un dossier de 70 pages. C'est beaucoup plus que si Positif l'avait fait, hein, mais aussi sérieux.
Ils ont fait Flash Gordon.
Avec notamment un entretien avec Patrice Lecomte, des interviews de Josiane Balasco, de Thierry Lhermitte, l'occasion de rappeler qu'à l'origine du film, il y a la pièce du splendide Amour, coquillage et crustacé. Donc, Schnock, et je crois que je ne suis pas le seul, Eric.
Je voulais conseiller aussi la revue des vieux de 27 à 87 ans. Donc, je suis encore dans le créneau.
Donc le spectre est plus large que positif.
Oui,
hein.
Le film est culte, mais cette revue, Schnock, est en train de le devenir aussi. C'est vraiment des trésors d'informations.
Ils avaient fait un numéro sur Le Père Noël est une ordure.
Fabuleux aussi. Est-ce qu'ils ont fait sur la 7e compagnie pour Jean-Marc? Pas encore. Et on apprend un tas de choses. C'est que les producteurs, évidemment, ne voulaient pas de Patrice Lecomte. Ils auraient préféré Oury ou Molinaro. Et c'est la troupe du Splendide qui l'a imposé. Et la fameuse scène des algues avec Jean-Claude Duss qui sort des vagues. Comme c'était tourné en Côte d'Ivoire, là-bas, il n'y avait pas d'algues. Ils ont été obligés de faire venir de Bretagne par avion. Et il y a aussi, à la fin, une critique d'un film de Joël Seria totalement introuvable, Marie Poupée, que je n'ai jamais vu.
Lui qui avait fait les galettes de Pantalène.
C'est ça, oui. Et qui est sûrement intournable aujourd'hui, parce qu'à la fin, il donne un extrait. C'est « Tu sais ce qu'on va faire maintenant, on va jouer à un jeu. Tu vas rester comme ça, allongé sur le lit, immobile, les yeux fermés. Tu vas te laisser faire comme si tu étais une poupée. Tu veux bien. »
C'est donc voilà. Le spécial bronzé de la revue Schnock, que tu connais pas, Jean-Marc, je suis sûr, c'est pas assez tendance pour toi, ça.
Je la connais, je peux pas dire que j'adore ça, oui.
Voilà, c'est parce que...
Je me reconnais pas complètement dans leur cinéphilie, je l'avoue.
Tu auras 88 ans.
C'est au second degré, quand même, hein, voire au troisième degré. Hein. Mais c'est vrai que je vois pas un spécial Joël Seria dans Les Arts Occupibles. Jean-Marc, ton conseil.
Un film pas très Schnock, Pluie noire de Shuo Imamura, qui est un chef-d'œuvre d'Imamura de 1989 et qui parle du Japon à partir de la catastrophe d'Hiroshima. Et quand on voit le film, on pense sans arrêt à cette pensée du cinéma qui a été beaucoup nourrie par Claude Lanzmann, qui de dire que l'horreur est irreprésentable. Imamura, il ose reconstituer entre guillemets l'explosion d'Hiroshima, reconstituer par des maquillages, des effets spéciaux, les corps déchiquetés, et c'est d'une telle puissance expressive, il y a un tel génie de cinéma à l'œuvre que c'est vraiment énorme et on se dit qu'il n'y a pas d'irreprésentable en fait, que les grands cinéastes peuvent trouver des solutions de mise en scène à tout.
Alors sois rassuré, contrairement à India Song, à la fin du dernier Masque et la Plume, on a dit le plus grand bien de ce film d'Imamura. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume franceinter.fr. Merci beaucoup d'être venu en plein mois d'août au Théâtre de l'Alliance Française. Merci Eva Bétan de France Inter. Merci Xavier Le Herpeur qui va retrouver, j'imagine, la plage dans quelques instants.
Les séries télé.
Hein, c'est réglé.
Tu as 3 semaines de la reprise. Je pense comme un malade.
Avec Eric Neuhoff qui va peaufiner son bronzage également. Et Jean-Marc Lalanne qui va aller passer quelques soirées uberguées dans la capitale.
On se retrouvera
avec notre ami Flash.
Tous ces conseils, j'ai oublié de les dire, évidemment, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Cette émission était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et il y avait aujourd'hui au théâtre de l'Alliance française à la technique, et je les remercie, Valérie Lavalard, Sébastien Royer et Charles Serres. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de littérature à samedi et dimanche prochain, tout l'été sur France Inter, évidemment.